RFJ, spéciale votation.
Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à la halle de gymnastique de Courtedoux. Jusqu'à 20h, place à notre débat sur le projet de rénovation et d'agrandissement de la patinoire d'Ajoie et du Clos du Doubs.
Les deux objets qui sont soumis au peuple à Joulot le 1er juillet prochain, les 21 communes du district vont se prononcer en même temps. Il faut qu'au moins 14 d'entre elles donnent leur aval pour que le projet puisse aller de l'avant.
Quatre invités pour en débattre ce soir en public et en direct sur RFJ. Dans le camp des opposants au projet du SCDP, Benoît Bleyart, président du mouvement des communes et citoyens responsables et maire de Queuve, et Romain Christ, membre de ce comité. Vous êtes aussi enseignant en économie.
Et puis dans le camp des partisans, le président du syndicat intercommunal du district de Porrentruy et Merdal, Stéphane Babé, ainsi que Gérard Meyer, président du groupe de travail patinoire. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Dans la première heure de ce débat, on va aborder quatre thématiques, les charges du projet, les besoins des utilisateurs, les finances communales, ainsi que les retombées économiques et touristiques. Et dans un second temps, c'est vous, cher public, qui aurez la parole. Attention, il s'agit d'un débat d'idées. Nous ne tolérerons pas les attaques personnelles et les propos injurieux.
On vous rappelle l'enjeu de ce vote. Deux questions sont soumises au peuple à Joulot le 1er juillet. La première porte sur un crédit de 20 300 000 francs dans le but de rénover la patinoire existante. Et puis la deuxième propose un crédit complémentaire de 7 500 000 francs pour créer un deuxième champ de glace. Le SIDP a fixé le montant de la dette résiduelle à charge des communes à 13 millions de francs, ceci pour le projet global.
Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec le principal point d'achoppement, les charges. C'est là que les avis divergent le plus, avec déjà cette augmentation du coût total du projet. Il était devisé à 17 millions en 2014. Moins de 4 ans plus tard, il se monte désormais à 27,8 millions. Gérard Meyer, le peuple retient 10 millions de différence. C'est difficile à défendre, non ?
Non, je pense qu'il faut être clair aussi dans un projet tel que celui-ci ici. Nous avions une étude que nous avions appelée l'avant-projet des utilisateurs. Il fallait bien voir si c'était une étude de faisabilité. Nous avons voulu aussi, dans le cadre de la consolidation de cet avant-projet, permettre de traiter l'ensemble des problématiques et de la matière qui était nécessaire justement par rapport à ce projet qui est extrêmement important. Donc on a dû bien se rendre compte dans le cadre de la préparation de ce dossier, notamment qu'il y avait dans différents postes des différences importantes, notamment en ce qui concerne, comme on a pu le voir, les travaux préparatoires. Il faut voir qu'il y a beaucoup de dispositions de sécurité à prendre pour la protection justement du chantier, et puis d'autant plus que nous sommes à proximité de la voie des chemins de fer. Là, il y a une estimation qui a été faite pour ce poste-là uniquement, qui représente déjà rien que 300 000 francs sur les 1 800 000. Il faut voir aussi que nous serons dans une installation qui va fonctionner pendant les travaux aussi. Et ça nécessite aussi toute une série de protections. Les installations techniques, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce type d'infrastructure a besoin aussi d'installations techniques extrêmement importantes, notamment au niveau du traitement de l'air, au niveau de la récupération de la chaleur. Ce sont aussi des dispositions qui sont nécessaires pour respecter les normes environnementales. L'étanchéité de la toiture, là, nous prévoyons avec une surface de toiture avec du photovoltaïque intégré, qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une étanchéité, nous avons dû aussi nous rendre à l'évidence que sur le plan technique, c'est une nécessité.
Alors, ce sont tous des points qui sont développés dans le message aux citoyens. On évoque aussi des nouvelles normes de sécurité. Benoît Bleyart, ces nouvelles normes sont arrivées entre 2014 et aujourd'hui. Ça, vous n'y croyez pas, cette augmentation-là ?
Alors, effectivement, il y a certaines normes qui ont évolué entre 2014 et 2018, mais pour passer de 17 à 27,8, il y a un saut qui est quand même relativement important. Et quand on entend à l'instant qu'effectivement il y a des travaux préparatoires liés à la voie de chemin de fer, à des travaux de, je dirais, d'accès, de choses comme ça, on est en droit de se poser la question en se disant que la ligne de chemin de fer était déjà là à l'époque aussi. Donc cette augmentation, finalement, elle est importante, de 10,8 millions, et surtout, ce qui nous interpelle le plus, c'est qu'elle ne correspond pas aux souhaits de base, finalement. Toutes les communes ont cédé leur part de propriété de la patinoire en 2015, sur la base d'un projet plafonné à 17 millions, et puis aujourd'hui, on se retrouve avec une votation, avec un projet à 28. Donc, on est hors sujet, clairement, et c'est ça qui nous interpelle le plus.
Votre mouvement, d'ailleurs, le MCCR, parle d'un projet luxueux. Romain Christ, qu'est-ce qu'il faut y enlever à ce projet-là pour qu'il devienne raisonnable ?
J'ai aucune idée de ce qu'il faut y enlever. Par contre, ce que je sais, c'est que on a effectivement et des charges, puisqu'on parle de charges qui sont importantes, mais surtout, et c'est notre but, c'est le but de notre mouvement, c'est qu'à un moment donné, on veut faire donner une certaine transparence à ce dossier. Et typiquement, les charges de la patinoire actuelle ont été gonflées plus de 250 000 francs pour pouvoir être comparées aux charges futures et pour que cette comparaison soit intéressante. Et moi, quand je vois ce genre de choses...
On va y venir tout de suite sur les charges, mais peut-être, selon vous, il n'y a pas grand-chose à y enlever, finalement, à ce projet-là.
Alors, ce n'est pas à moi de juger ce qu'il y a à enlever ou pas. Je rejoins Benoît Blayer par rapport aux 17 millions. Quand j'ai rencontré M. Meyer en 2013, il m'a assuré, il m'a dit, « Monsieur Christ, 17 millions, c'est un projet qui est bien ficelé. Les politiciens ont relevé le professionnalisme du projet. » Et simplement, effectivement, on se retrouve aujourd'hui à 27. Qui me dit que dans 2 ans ou dans 3 ans, puisque le coût final, on le connaîtra uniquement au moment du paiement de la dernière facture, qui me dit qu'on ne sera pas à 37 millions dans 3 ans ?
Stéphane Babet, vous pouvez le garantir ça aujourd'hui ?
Alors non seulement on peut garantir le prix de 27,8 millions de charges de total de la création de ces deux champs de glace, mais il s'agit ici aussi de bien présenter les choses. Et nous avons décidé au soir du 17 avril, lors de l'Assemblée des délégués du SIDP, de plafonner la dette à 13 millions. Ça, je pense que c'est le chiffre que l'on doit absolument retenir ce soir, et c'est à partir de cette base-là que tous nos calculs sont faits, qu'il s'agisse du service de la dette ou qu'il s'agisse également des charges liées au fonctionnement. Mais j'aimerais revenir malgré tout sur cette augmentation de 10,8 millions. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on nous a présenté le projet consolidé, qu'on s'entende bien, c'est-à-dire le projet final, nous nous trouvions dans les 33 millions. On a dit non, c'est absolument pas possible, c'est un dossier qui avait été préparé par des architectes qui ont déjà créé une patinoire, donc ils savent exactement de quoi ils parlent. On a retranché tout ce qu'on a pu pour avoir un projet qui soit réaliste, qui soit à minima et qui puisse répondre à toutes les normes. Et on arrive donc à ce chiffre-là de 27,8 millions. Il est tout à fait explicable. Pourquoi ? Parce qu'on y intègre une surface de glace qui puisse être utilisée par tous les utilisateurs, ce qui n'était pas le cas lors du premier projet. On y intègre, Gérard Meyer l'a dit tout à l'heure, des notions d'étanchéité du toit. On y intègre quand même, il ne faut pas l'oublier, 2,5 millions de charges d'ingénieurs et d'architectes. Ce n'est quand même pas nous qui l'avons choisi non plus. Donc tout ça participe à cette augmentation et on arrive donc à chiffre de 27,8 millions.
Votre réaction, Romain Christ ?
Alors, effectivement, un projet qui est raboté apparemment, hein, puisqu'on est à 33, on le rabote pour le présenter d'une manière un peu plus décente. Je crois que ça a été fait plus ou moins la même chose à Meyrin. Cette patinoire a 10 ans. Ils ont investi dans les 10 ans d'utilisation, ils ont investi 4 millions, machine de refroidissement.
Je suis obligé de vous couper, dites pas n'importe quoi.
Oui, monsieur, c'est effectivement ça. Et à un moment donné, on sait tous que sur un projet qui est raboté, au final, ça coûte toujours plus cher.
Stéphane Badet, Jérôme Meyer.
J'aimerais quand même compléter ici. On compare des pommes avec des poires ici. Le projet de Meyrin n'est pas du tout une patinoire où les équipes peuvent évoluer en Ligue nationale B. On a aussi pris des renseignements. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est illusoire de penser qu'on peut faire une patinoire telle que le projet que nous proposons pour 17 millions. Je crois qu'on doit aujourd'hui casser cette image de dire qu'on peut faire un projet pour 17 millions en respectant toutes les normes et avoir une équipe qui joue, qui évolue en Ligue nationale B. Meyrin, on évoque le projet de Meyrin où ils ont dû faire des coupes. Ils avaient un projet à 18 millions. Le politique a dit « vous ferez pour 15 millions ». Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau du fonctionnement, ça leur pose des problèmes. Il y a des manques et des surcoûts aussi au niveau du fonctionnement. Et cette patinoire avec 1000 personnes, il faut aussi comparer ce qui est comparable aujourd'hui. Donc on ne peut pas avoir, nous, une patinoire avec une équipe qui veut évoluer, qui veut continuer d'évoluer en Ligue nationale B, pour le prix tel qu'on nous le propose, tel qu'on veut nous le faire croire aujourd'hui. Juste aussi, à titre d'exemplatif, la patinoire à Viège, de la même capacité que celle que la nôtre, c'est 35 millions.
Benoît Blayard, si on prend les charges annuelles, les communes payent aujourd'hui environ 680 000 francs. Avec une rénovation en deuxième champ de glace, le montant estimé par le SIDP est de 885 000 francs. L'augmentation n'est pas si conséquente que ça ?
Alors, effectivement, comme Romain Christ l'a dit tout à l'heure, les charges entre 2005 et 2010, les charges classiques pour la patinoire, on était aux environs des 400 000 francs. Depuis quelques années, effectivement, les coûts de fonctionnement ont augmenté. On a passé des frais d'études dans ce fonctionnement. Il y a beaucoup de coûts qui ont été rajoutés pour avoir ce chiffre de 670 000 francs qui nous rapproche effectivement de ces 880 000 francs. On a effectivement une réduction de ce prix-là. Mais quand on parle du montant de 13 millions qui est le chiffre à retenir, c'est la dette résiduelle au niveau des investissements, certes, mais ça reste un souhait. Il faut être clair que c'est un souhait. Le coût final, il sera connu une fois que la dernière facture sera payée. Et ça, c'est aussi une inquiétude dans le sens où les devis, ils ont effectivement une marge de manœuvre de plus ou moins 10%. Donc de ce côté-là, c'est bien qu'on ait ce souhait, mais ce 13 millions, il n'est lié qu'à l'investissement. Et on sait très bien que, comme pour un véhicule, l'acheter, c'est une chose, mais l'entretenir sur 10 ou 20 ans, on a facilement payé le montant de l'investissement en frais de réparation et d'entretien.
Romain Christ.
Alors effectivement, j'aimerais rebondir sur ces charges et je pense que là, on a le nœud du problème et c'est certainement la raison pour laquelle je m'oppose pareillement à ce projet. Jusqu'en 2015, on a une moyenne de charges de 400 000 francs pour la patinoire actuelle. En 2018, la patinoire est toujours la même, il n'y a rien qu'à changer. Les charges sont passées à 676 000. Donc on les a gonflées de 280 000 par des charges externes qui n'ont rien à voir avec l'utilisation de la patinoire actuelle. Tout ça pourquoi ? Pour effectivement comparer avec les chiffres futurs. Et ça pour moi, ce n'est d'une part pas transparent, mais c'est malhonnête. Parce qu'on trompe le peuple. Et quand on dit qu'il n'y aura que 5 francs d'augmentation, eh bien c'est sur cette base-là qu'on parle de 5 francs d'augmentation. Mais moi, j'ai repris les montants et on passe plutôt, avec le montant que je vous donne, on passe plutôt pour les communes qui ne sont pas dans la couronne de 7 à 27 francs. Et ce n'est pas les 5 francs qu'on veut bien nous dire.
Gérard Meyer, Stéphane Babet, on a artificiellement augmenté ces charges ?
Mais bien sûr que non, que nous n'avons pas artificiellement augmenté ces charges. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la seule différence qu'il y a par rapport aux années antérieures, c'est que nous avons intégré les frais d'études pour le chargé de projet par rapport à l'évolution du projet. Mais ce qu'il faut savoir aussi, ce sont les charges d'entretien qui sont énormément augmentées ces deux dernières années. Les appareillages, les installations techniques. On ne peut plus continuer. De toute façon, si nous continuons dans la situation que nous sommes aujourd'hui, il y aura quand même des frais extrêmement supplémentaires pour le suivi de l'ensemble de ces installations. Et puis, j'entends, il ne faut pas non plus jouer avec les chiffres. Nous avons fait aussi un budget de fonctionnement que nous avons estimé sur la base d'éléments concrets qui nous ont été donnés aussi tant par les ingénieurs, tant par rapport au fonctionnement actuel, mais également au niveau des recettes, par rapport à ce que nous avons aussi convenu avec l'ensemble des utilisateurs. Il y a des engagements, et également de la part aussi des investisseurs qui sont prêts à soutenir aussi le projet.
Romain Christ.
Mais à un moment donné, ce que dit M. Meyer, oui, effectivement, il y a les 130 000 francs du chargé de projet qui n'ont effectivement rien à voir avec les charges actuelles. 130 000. Mais par contre, tout le reste, vous dites les charges, etc. Non, non. C'est juste des augmentations. Et à un moment donné, il faut quand même être réaliste et correct. Ce n'est pas vrai. La patinoire actuellement, elle ne coûte pas 676 000 francs. Vous y avez mis plein de charges qui n'ont rien à y voir. Et moi, quand vous dites on doit quand même faire quelque chose, je suis convaincu qu'il faut effectivement faire quelque chose. Et je ne nie pas et je suis pour une rénovation de la patinoire. Oui, je suis pour.
Ça fait plaisir d'entendre ça, mais il faut être clair. Les montants, les chiffres, ce sont des budgets que nous avons établis, qui ont été approuvés par l'ensemble des maires. Il ne faut pas quand même contester l'ensemble de ces chiffres. Mais il faut savoir que si nous continuons, et là je vais être clair, avec cette installation telle que nous avons maintenant, nous aurons encore des frais qui veulent exploser dans le futur. Il faut être clair.
Messieurs, on a bien compris qu'on ne va pas vous mettre d'accord ce soir sur ces charges. On va peut-être avancer un petit peu, puisque parmi vos craintes, Benoît Bleyart et Romain Christ, il y a la capacité financière des utilisateurs actuels de la patinoire à assumer les futurs coûts. On parle ici du HC Ajoie, du Curling Club Ajoie et puis du club des patineurs d'Ajoie. Pourtant, si on écoute Michel Collin, président du CPA, il n'y a aucun problème.
C'est un budget actuellement de 100 à 110 000 francs par année qui passera aux environs de 150 à 160 000 avec la nouvelle patinoire. Maintenant, nous, le club, on a déjà anticipé cette situation de nouvelle patinoire et de transition. Par exemple, à l'heure où je vous parle, on a déjà plus d'une année de glace d'avance pour l'année prochaine. Donc si maintenant la facture de la glace l'année prochaine arrivait, on pourrait déjà l'honorer maintenant sans même avoir donné un coup de patin.
Et le son de cloche, elle-même, du côté du HCA et du CCA. Benoît Bleyart, vous ne les croyez pas, ces utilisateurs ?
Alors, si, absolument, c'est louable, je dirais, d'avoir des utilisateurs qui disent ben, on est prêt à mettre la main au porte-monnaie pour payer une certaine augmentation. Donc, cette augmentation, elle sera effectivement conséquente pour certains clubs. Elle a été plafonnée pour d'autres clubs. Hein. Le club de curling a plafonné finalement en disant ben, nous, on ne pourra pas mettre plus que tant de montants, chose que les communes auraient bien aimé faire aussi, d'ailleurs. Mais les utilisateurs ont effectivement monté leur location pour le HC et pour le club des patineurs. Donc, c'est très bien. Mais quand on a un engagement comme ça, on sait très bien que sur... D'ici 2, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas ce qui se passe. Le jour où ces utilisateurs diront « Écoutez, on est en difficulté financière au niveau du club », elles vont venir vers le SIDP, propriétaire de l'installation, et diront « Mais faudra qu'on puisse baisser un petit peu nos charges, on ne va pas s'en sortir comme ça ». Et là, je dirais, on va avoir un vaste communicant qui va se faire entre le club des utilisateurs et le SIDP, qui est le peuple, finalement. Et c'est ce côté risque qui est important aussi pour le citoyen, de voir des clubs qui sont pris à la gorge avec des locations qui sont relativement importantes. On le voit au niveau national aussi, les locations qui sont... projeté, en l'occurrence, que ce soit pour le HC ou pour le club des patineurs, même si la situation financière est stable et saine aujourd'hui, on ne sait pas ce qui sera fait demain. Donc, je dirais, le filet de sécurité qui est représenté par le citoyen, il est très, trop important. Et on aurait dû faire exactement l'inverse, c'est de dire, ben, finalement, les communes ou les entités publiques, hein, l'argent public, on peut mettre tant de montants, et puis ensuite, les utilisateurs fixent finalement... qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ce montant ? Là, on a fait l'inverse, on a demandé qu'est-ce qu'il fallait. On a un projet qui est effectivement très bien, très vaste, hein, on ne remet pas en cause, mais c'est vraiment le côté, est-ce qu'on peut se le payer ? Et ça, aujourd'hui, on doit dire non.
Stéphane Babé, quel est le plan B en cas de difficulté financière ?
Justement, il n'y a pas de plan B. C'est un peu ça le problème, c'est qu'au soir du 1er juillet, soit c'est la victoire, soit il n'y a pas de plan B. On ne sait pas quoi faire au 2 juillet.
Je parle de problème des utilisateurs, problème financier des utilisateurs.
Moi, j'aimerais quand même juste revenir sur l'histoire des loges.
Déjà, parce qu'il faut
quand même dire,
Stéphane Babé, s'il vous plaît, en cas de problème dans le futur des utilisateurs, s'il y a cette capacité financière qui n'arrive plus, quel est le plan B du côté du SIDP ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Bon, il faut savoir aussi qu'on a quand même le directeur de la Ligue Suisse qui est venu il y a quelques jours ici à Pointe-Aux-Trembles pour défendre évidemment les couleurs du HCA. Et il nous a complètement rassurés pour nous dire que le HCA avait une situation extrêmement saine, voire envieuse par rapport à certains clubs suisses. Et à ce que je sache, les clubs suisses ne vont quand même pas tous mourir d'ici demain matin. Donc là, on a une vision à moyen, voire long terme, par rapport aux locations du HCA. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport au financement de la patinoire, ce sont les loges. Et les loges sont particulièrement importantes dans le financement, non seulement de l'investissement, mais également du fonctionnement. Et nous avons là des contrats qui engagent les entreprises qui ont signé des contrats entre 5 et 10 ans. Donc nous avons là cette capacité, avoir à 10 ans en tout cas, de retombées qui sont rassurées. J'aimerais aussi rajouter quand même qu'au niveau de la Confédération, nous sommes en train, on va attendre évidemment le 2 juillet, pour signer l'engagement qui nous lie avec l'Office fédéral des sports. Engagement qui nous lie durant 15 ans. Donc là, on a une assurance, en tout cas pendant 15 ans, que nous aurons des retombées du côté de la Ligue de hockey.
C'est pas suffisant comme un Christ ?
Alors, je crois que pour les 5 ou 10 prochaines années, je pense, de ce que je peux voir du dossier, je pense que ça pourrait peut-être fonctionner, 5 ans. C'est exactement ce qui est donné également au niveau des taux d'intérêt. Typiquement, les taux d'intérêt, ils ont estimé qu'ils allaient bloquer à 10 ans, à 1,47. Donc c'est effectivement un taux extrêmement bas qui permet de réduire la charge immédiate. Par contre, c'est pas avoir une vision à moyen ou long terme. Et je pense, et le professeur Daflon partage tout à fait mes craintes, il a clairement dit, moi, si ce projet passe, ça m'intéresse parce que je reviens dans 5 ans en Ajoie et je pense que tout ce que j'ai donné comme élément qui allait se passer, je pense que je pourrais les vérifier. Et le risque, il est là. Pour moi, c'est un gros risque à 5 ans qu'effectivement ça ne fonctionne plus. Il y a des exemples, on a des exemples en Suisse, hein, on a la Praille, on a la Maladière, on a un exemple avec... la patinoire du HCA en 1995 qu'il a fallu reprendre parce que le club est tombé, etc., après une malheureuse épopée en Liga. Et ça, personne peut nous dire que ça ne va pas arriver à nouveau. Et le problème, parce que pour moi, prendre le risque, c'est très bien, mais le problème, c'est que c'est la population qui doit prendre ce risque-là. Et ce n'est pas à elle de supporter ce risque-là.
Gérard Meyer, une réaction ? Oui.
Je crois qu'on parle toujours que de risques, mais on ne parle pas aussi quelles sont les perspectives que pourront apporter cette, justement une patinoire avec deux champs de glace. Avec aujourd'hui la situation, rénover la patinoire, une seule surface de glace, on n'aura aucune perspective de développement pour les clubs, mais on n'aura pas de possibilité de donner pour les gens, le public, d'aller patiner, d'augmenter les heures de glace pour les écoles. La seule possibilité est aussi dans le cadre du compte de fonctionnement, parce qu'ici c'est le compte de fonctionnement, quand je vous dis qu'il y a des perspectives, il y a des rentrées possibles, on sait qu'il y a des attentes de la part de clubs pour venir s'entraîner, de la part aussi d'entreprises qui cherchent aussi des fois pour faire des manifestations, des sociétés. Donc tout ça, ce sont des rentrées potentielles que nous n'avons pas aussi estimées. Donc là, avec deux champs de glace, il y a des perspectives. Avec un seul champ de glace, il n'y en aura pas. Et si on suit votre proposition, il n'y aura plus rien du tout pour cette région.
Vous allez un peu trop vite par rapport à notre débat. On va désormais passer aux besoins, car s'il y a un projet, c'est pour répondre à des attentes bien concrètes pour le président du Curling Club Ajoie, Olivier Dubail.
Actuellement, nous avons 2 heures de glace entre 20h45 et 22h45 le lundi soir. Pour nous, il n'est pas possible d'accueillir de jeunes. Il n'est pas possible de nous développer. Nous avons une quarantaine de membres. On ne peut pas décemment et facilement augmenter le nombre de membres en n'ayant que 2 heures de glace. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le nombre de personnes, d'entreprises, le public de manière générale ou de groupes sportifs qui viennent ou qui souhaitent faire une initiation. Et ces initiations, il y en a un certain nombre dans l'année, 2 a priori chaque année, mais ça ne répond de loin pas à la demande. Il serait tout à fait possible et envisageable d'avoir nettement plus d'heures d'initiation et de vendre ces initiations, d'avoir un revenu supplémentaire pour la seconde surface.
Romain Christ, la situation du Curling Club Ajoie, ça ne vous interpelle pas ?
Non. Non, ça ne m'interpelle pas plus que ça. Moi, j'ai regardé le dossier par rapport aux heures qui sont demandées, c'est 760 heures supplémentaires hein, qui figurent dans ce dossier. Et ça m'a quand même interpellé, j'ai fait un petit calcul. Je ne sais pas combien de temps la patinoire, la deuxième surface sera ouverte, si c'est une année ou 40 semaines ou je ne sais pas. Mais moi, je suis parti sur 40 semaines, ça fera 3 heures par jour. Donc à un moment donné, oui, je me pose la question et ça m'interpelle quand on demande une nouvelle patinoire, donc une deuxième, pour avoir un besoin de 3 heures par jour. Je vais faire un parallèle, quand je dis par rapport au curling, je vais faire un parallèle avec la natation. Une piscine, elle est ouverte 13 heures par jour. J'ai entendu qu'effectivement, certains hockeyeurs devraient s'entraîner 2 ou 3 fois plus pour pouvoir performer, etc. Un nageur, actuellement, ne peut pas, et je ne prends pas mon cas, hein, que ça soit bien clair, mais un jeune nageur, s'il aimerait être au niveau national, n'a aucun moyen de nager suffisamment à Porrentruy pour être à ce niveau. Est-ce qu'on demande une deuxième piscine ? Une deuxième piscine à Porrentruy avec des heures potables. Non, c'est pas possible.
Stéphane Babet.
Oui, alors la piscine, c'est un autre sujet. La piscine concerne quand même beaucoup moins de monde. Mais là, dans les heures de glace, vous oubliez quand même les 600 élèves, 600 élèves des écoles de Porrentruy qui n'ont pas la possibilité de venir patiner. On parle de 600 l'hiver dernier. On parle d'un nombre impressionnant de patineurs qui aimeraient s'adonner aux loisirs de glace. Le soir, en semaine, on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'occasion, malheureusement, aujourd'hui, de leur offrir. Et vous oubliez quand même un aspect quand même très important. C'est ce fameux centre de formation qui est reconnu au niveau national, qui va amener des jeunes de toute la Suisse, des jeunes de toute l'Europe, et que vous omettez d'émettre dans votre calcul.
Alors, on va y arriver sur le centre de formation. Romain Christ, peut-être déjà sur cette jeunesse qui n'a pas accès à la patinoire.
Mais la jeunesse a accès à la patinoire. Vous pouvez prendre les plannings de la patinoire. Je peux vous dire qu'il y a effectivement, il y a encore du libre. Mes filles qui vont à l'école à Porrentruy vont à la patinoire chaque hiver. Je n'ai jamais entendu un prof se plaindre parce que la patinoire était complète et qu'il ne pouvait pas y accéder.
Alors vous demanderez aux profs, un jeudi après-midi du mois de février, ils se sont retrouvés sans élèves sur la glace. Parce qu'il n'y avait pas la possibilité d'y aller avant, il n'y avait pas la possibilité d'y aller après. C'est l'exemple typique d'un manque cruel de glace, non seulement pour les utilisateurs, mais surtout pour les écoliers et le grand public.
Benoît Bleyart, il y a cet aspect de la jeunesse. Effectivement, on l'entend aussi chez les utilisateurs, les jeunes qui doivent souvent s'entraîner tard le soir. Pour le patinage scolaire, les avis divergent, mais on peut se dire qu'il y a peut-être un besoin de ce côté-là aussi. Est-ce que dire deux fois non le 1er juillet, c'est pas finalement décourager la jeunesse de toute industrie ?
Non, mais alors effectivement, de dire que il y a besoin de glace pour les élèves. Oui, effectivement, il y a un besoin de glace pour les élèves, mais qui est tout à fait raisonnable. On prend l'exemple de l'école de Queuve. On a 3 heures de glace par année. C'est amplement suffisant. Donc, il ne faut pas justifier, finalement, le fait maintenant de dire on a besoin d'une deuxième surface de glace pour les écoles. C'est quelque chose qui n'est pas justifié. Donc, l'investissement, il doit être fait. La proposition de fixer une fois un don unique de 11 millions, c'est parce qu'on juge qu'il y a un intérêt public à cette infrastructure. On n'est absolument pas aujourd'hui en train de dire que les citoyens ne doivent pas contribuer à cette infrastructure. Au contraire, il faut le faire parce qu'on reconnaît cet intérêt public, mais l'intérêt public, il a une certaine limite. Et quand on entend des clubs qui disent, effectivement, on doit s'entraîner tard le soir, on peut le regretter. Mais quand j'entendais tout à l'heure, effectivement, M. Dubaï qui dit, mais on ne pourra pas se développer, on ne pourra pas recruter de nouveaux membres. Mais je crois qu'il faut fixer effectivement cette limite, à dire, est-ce que c'est aux contribuables à Joulot et du Clos du Doubs de pouvoir permettre cette augmentation-là ? On peut regretter aussi, mais on a effectivement beaucoup d'autres clubs de la région, hein, ou de sociétés qui se débrouillent effectivement sans aide publique. Là, on parle quand même d'un soutien d'argent public de 70%. Donc, quelle société ou quelle association dans la région peut dire, on a un soutien d'argent du contribuable de 70%. Je crois pas beaucoup. On a tous l'habitude d'avoir les petits clubs de village qui font tourner la buvette pour acheter les maillots, etc., ou faire le concours de fanfare pour payer les uniformes. Et là, effectivement, on a des utilisateurs qui ont certains besoins. On peut le comprendre, on peut l'entendre. Je ne suis pas en train de dire que ce besoin n'existe pas, il est bien réel, mais il faut pouvoir fixer aussi ce plafond financier en termes d'argent public. Le citoyen ne doit pas financer complètement ses besoins qu'on a vu qui sont effectivement tout relatifs.
Stéphane Babet, si on prend l'exemple cité, est-ce que c'est à toute industrie d'investir pour quelques dizaines de membres d'un club ?
Non, mais l'enjeu, il n'est pas sportif, là. L'enjeu, il est sociétal. Parce que quand toutes les semaines, vous avez 2300 personnes qui viennent se rassembler sur un seul site, dans le Jura, moi, ça me parle. Il y a quand même une dimension sociale qui dépasse largement le cadre sportif. Et c'est de notre responsabilité aux politiques aussi d'en tenir compte. Et ça doit faire partie entièrement de la politique que l'on doit mener pour développer notre district. Il ne s'agit pas simplement de sport, il s'agit d'une vitrine. C'est dans ce sens-là qu'il faut aussi intégrer les deux champs de glace et l'importance de ce projet qui est capital pour notre région.
Donc vous parlez des soirées de match du HCA, donc le principal utilisateur de cette patinoire d'Ajoie et du Clos du Doubs, c'est donc le HCA Ajoie. Qu'adviendrait-il pour lui en cas de double non 1er juillet ? Réponse de son président Patrick Auert.
Ça sera une situation de crise, je dirais, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui ce qui va se passer. Est-ce que nous allons tout laisser tomber ? Est-ce que nous allons nous expatrier ? Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions éventuelles ? Je préfère ne pas y penser à l'heure actuelle.
Et si c'est le petit projet de la simple rénovation, ici de la patinoire qui passe, un seul oui, ça ne met pas en péril le HCA Ajoie, non ?
Si, ça met en péril quand même les investissements du HCA Ajoie, parce que finalement, ces promesses financières que nous avons données, ainsi que les promesses financières d'autres investisseurs qui sont pour l'intégralité du projet, seront remises en cause. Le centre de formation sera remis en cause, le million de la Confédération sera remis en cause, etc., etc. Donc, pour nous, c'est quelque chose de très compliqué si on devait avoir qu'un seul champ de glace.
On vient de l'entendre, situation de crise, le club pourrait mettre la clé sous la porte, quitter la joie. On peut prendre un tel risque, Benoît Bleyart ?
Alors, je découvre les propos, mais je les trouve effectivement assez alarmistes. Hein. On remarque qu'on joue beaucoup avec la peur, parce que si finalement il n'y a pas de champ de glace, qu'est-ce qu'on va faire sans deux champs de glace ? J'ai l'impression qu'on oublie que pendant 45 ans, on a patiné sur un champ de glace, sur une patinoire qui a coûté 3 millions à l'époque, qui a été rachetée 2 millions en 1995 par les communes. Donc on a l'impression aujourd'hui que s'il n'y a pas de champ de glace, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et ce côté peur, finalement, c'est pas quelque chose qui est intéressant. On entendait tout à l'heure le président du SIDP dire « il n'y a pas de plan B ». Mais quelque part, pour le peuple qui doit voter entre oui et non, de dire qu'il n'y a pas de plan B, je ne pense pas que c'est une solution. De dire oui, on va écouter, puis finalement, le plan B, on en prendra un. C'est aussi le rôle d'une autorité politique de dire s'il y a un refus de la population, on va trouver une solution. Et la proposition, on en a une aussi. Donc, voilà.
Gérard Meyer, d'autres clubs, d'autres sports ont aussi des attentes. Qu'est-ce qu'on dit au BC Boncourt pour la mise aux normes de sa salle, etc.
Effectivement, d'autres sports ont besoin d'infrastructures. Mais je voudrais juste revenir quand même sur une chose. Quand on ne prend personne en otage. Quand on dit qu'il n'y a pas de plan B, c'est qu'il n'y en a pas. Et aujourd'hui, il faut quand même savoir que le HCA joue sous dérogation de la Ligue et la dérogation est accordée parce que nous avons un projet qui est en cours. Donc, ça veut dire que si ce projet est refusé par la population le 1er juillet, je ne suis pas sûr. La prochaine saison, probablement, qui jouera, mais la saison d'après ne pourra pas jouer s'il n'y a pas quelque chose en place. Ça, je crois qu'il faut... Ce n'est pas de la prise en otage, ce n'est pas des menaces, c'est uniquement la réalité. Oui, il y a des besoins pour le sport. Je crois pour l'ensemble des sports. Mais est-ce qu'on veut encore avoir, finalement, envie d'avoir des sports d'élite dans notre région? Et je crois qu'ici, on a une belle opportunité. Il ne faut quand même pas oublier que le club formateur du HCA, c'est quand même celui qui est une vitrine sur le plan national et international. Il ne faut quand même pas l'oublier. Le sport de hockey, c'est quand même aussi, en Suisse, une chose qui est extrêmement importante, où on est extrêmement attaché. Et puis je crois qu'on l'a aussi entendu dernièrement, l'entraîneur de l'équipe suisse de hockey, lui, attend aussi des infrastructures pour justement la formation, pour pouvoir régater avec aussi les équipes sur le plan international. Vous me direz, est-ce que c'est à la collectivité publique de payer? Mais je crois qu'il y a aussi l'image d'une population, il y a l'image aussi d'une région, d'un canton, qui a aussi une certaine valeur. Alors c'est vrai qu'on ne doit peut-être pas tout payer par le sport, mais je crois que le sport est un vecteur extrêmement important pour la communication vis-à-vis de l'extérieur.
Donc Gérard Meyer, vous nous dites ce soir finalement que si le double oui sort des urnes le 1er juillet, il y aura encore des moyens pour le BC Boncourt, pour les halles de gymnastique par exemple, pour les écoliers?
Mais je crois, bon, le problème des halles de gymnastique, c'est une directive fédérale, une obligation fédérale. Il est clair, c'est de nouveau les collectivités publiques qui doivent assumer, mais on a déjà dû assumer combien de choses. Je voudrais juste faire un petit rappel. Depuis l'entrée en souveraineté, nous avons investi plus de 3,5 milliards bruts. C'est quand même quelque chose d'important pour rattraper aussi, pour se mettre à niveau dans nos infrastructures. Aujourd'hui, cette infrastructure de la patinoire, il faut aussi la mettre aux normes pour aussi permettre d'avoir aussi quelque chose de visible vis-à-vis de l'extérieur. Je crois que pour l'ensemble des sports, il y aura encore certains efforts à faire, mais il faudra les faire de manière concertée, mais aussi que chacun prenne en charge une part. Et ici, c'est le cas par les utilisateurs.
Benoît Bléhert.
Oui, le plan B, il existe en fait. On n'a jamais reconnu que la patinoire ne nécessitait pas d'amélioration ou de rénovation. C'est quelque chose qu'il faut absolument pouvoir dire, parce que c'est un état de fait qui met tout le monde à l'unanimité. Donc oui, il y a besoin. Et la proposition qu'on a, elle est effectivement de dire qu'on fait une fois un seul versement, au même titre que le canton qui va subventionner à hauteur de 25%, un montant de vraisemblablement environ 7 millions, c'est que là, le SIDP, par les communes, met une seule fois un montant de 11 millions uniques. Et ce 11 millions, il correspond effectivement à l'intérêt public, parce que oui, il faut faire patiner les élèves, oui, il y a un intérêt public, oui, cette infrastructure est régionale, on a le club qui rayonne, tout ça, effectivement, c'est évident. Donc une participation du citoyen à cette infrastructure-là, de niveau régional, il faut le faire. Et on est vraiment dans ce but-là de dire on va participer, mais à hauteur d'un montant fixe, unique, bloqué à 11 millions, parce que les communes, elles en ont un petit peu marre de voir tous les ans les charges augmenter. On parle de charges liées, charges cantonales, etc. Et on se rend compte qu'en l'espace de 3 ans, on passe de 400 000 francs de charges annuelles pour la patinoire à 600 000, puis 800 000, puis on ne sait pas où. Donc ce côté-là, il est aussi très très important pour les communes de pouvoir planifier à long terme. Et l'idée, je dirais, qui a été développée il y a une semaine, un forum citoyen, d'avoir un plan financier qui est rendu obligatoire pour les communes, il est important pour le SIDP aussi. Et à notre sens, il aurait dû être fait avant, parce que le citoyen doit avoir vraiment la vue d'ensemble.
Il ne peut pas être fait avant, il faut que le MCH2 soit mis en place, vous le savez très bien. Et je pense que les communes doivent d'abord le mettre en place et ensuite tourmonter l'information. Ça, c'est la première chose. Par rapport aux 11 millions dont vous faites état, est-ce que vous pensez honnêtement, mais honnêtement, qu'un exécutif communal ira en assemblée demander des centaines de milliers de francs pour les donner à une SA, idée un peu hasardeuse quand même, au risque, 5 ans après, de devoir reprendre les passifs de cette même SA? C'est du connu.
Je vais directement rebondir là-dessus.
En Suisse, aussi bien dans le Jura, on connaît ça dans le privé, on connaît ça dans le public. Vous savez parfaitement que ça ne va pas marcher et votre idée est un leurre.
Non, alors je crois qu'effectivement, c'est un point de vue, mais je ne le partage pas du tout. Le fait de donner une fois 11 millions, ça représente, je prends l'exemple pour la commune de Queuve, une somme de 250 000 francs. 250 000 francs sur 30 ans, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, à savoir aussi que les communes ne sont pas dans un rôle ou dans une aisance financière qui permet de dépenser tout et n'importe quoi. En l'occurrence, 250 000 francs pour la commune de Queuve, c'est une somme qui est importante quand on sait que de donner 50 000 francs à la société de football ou 50 000 francs à la fanfare pour développer ses infrastructures au niveau local, c'est déjà quelque chose de compliqué. Là, on fait x5. Donc, il ne faut pas dire que c'est rien. Un investissement comme ça, il est effectivement conséquent et ça permet de bloquer aussi la part d'argent des concitoyens pour dire que c'est quelque chose qui est fait fixe une fois et forfaitaire. Si on ne l'a pas, en prenant les chiffres du SIDP, cette patinoire nous coûtera entre 750 000 et 1 200 000. Donc, on va dire une moyenne de 1 million, 1 million sur 30 ans pour la commune de Queuve. Voilà, c'est le chiffre que les citoyens doivent pouvoir entendre, de dire est-ce qu'on est prêt à mettre 1 million pour la patinoire toujours au regard des autres sociétés locales, et c'est ce chiffre-là qui est important pour nous. Après, si les gens veulent bien, aucun problème, on s'y pliera.
On va pouvoir justement poursuivre dans ce chapitre des finances communales. Vous parlez d'aisance financière des communes. Il y a un rapport de l'ancien délégué aux affaires communales qui est assez clair dans le rapport sur les finances communales justement de 2016. 11 communes ajoulottes sur 21 ont une capacité d'autofinancement jugée mauvaise. Stéphane Babet, si on se tient à ce rapport-là, votre projet, il n'est pas supportable pour les communes ?
Si, ce projet-là est totalement supportable pour les communes. Alors, il est clair qu'en tant que responsable politique, on a toujours en tête et on a le souci, évidemment, de la gestion du portefeuille, d'une commune. Ça, c'est absolument clair. Maintenant, ce projet, il concerne 1,5 à 2 % de quotité d'impôt. Donc, ça n'a pas d'influence, absolument pas d'influence sur les charges communales. Il ne faut pas croire que c'est la patinoire qui sera éventuellement l'impact qui donnera forcément une augmentation d'impôts dans les communes. Ça n'est absolument pas vrai. Celles qui sont en difficulté actuellement devront de toute façon passer par une augmentation d'impôts, malheureusement, mais ce ne sera en tout cas pas dû à la patinoire.
Si on décortique un peu ces charges, Benoît Bléhart, ça représente 10 à 17 francs d'augmentation par citoyen par année ?
Oui, alors quand on parle en francs relatifs d'augmentation par habitant, par année, il faut bien se dire qu'il y a une partie de gens qui ne payent pas d'impôts. Donc c'est vraiment la facture que la commune va assimiler. Quand je parle d'un million pour la commune de Queuve, entre 750 ou 1 200 000, selon les hypothèses les plus optimistes ou la plus pessimiste, c'est un montant qu'il faudra finalement financer. Et certaines communes ont la capacité financière pour absorber certaines charges, donc on peut comprendre aussi que certaines communes qui sont plus aisées ou qui ont des moyens financiers autres puissent se dire c'est pas si grave finalement, qu'il y ait une petite augmentation dans 5 ans ou dans 10 ans, on aura les moyens de faire face. Très bien, mais on ne fait pas miroiter, on va pas faire de démagogie aussi en disant toutes les communes devront absolument augmenter leurs impôts, etc. Les communes qui sont prises à la gorge ou qui sont déjà limites d'un point de vue financier devront peut-être le faire, ou pas, ou tout de suite, ou plus tard. On n'est pas en train de parler d'augmentation de quotité d'impôt, on est en train de parler finalement de francs en valeur absolue, et de dire 1 million sur 30 ans, c'est effectivement ce que ça coûtera. Maintenant, on peut le financer par n'importe quel moyen, peu importe, j'entends. C'est ce que ça va coûter à chaque commune. Et c'est ce chiffre-là aussi qu'il faut que chaque commune puisse mettre en parallèle. On va donner et distribuer un tableau aussi avec l'ensemble des chiffres, l'ensemble des coûts pour l'ensemble des communes du district, pour que chacun puisse se rendre compte finalement et faire le parallèle avec les coûts communaux. C'est simplement ça. C'est donner cette information pour avoir le maximum de transparence aux citoyens, mais qu'on n'ait pas un retour de bâton plus tard.
Excusez-moi, mais je pense que une partie de ces tableaux.
Romain Christ réclame la parole depuis un moment. On vient vers vous tout de suite après.
Alors, par rapport aux 11 millions, je pense, les 11 millions plus 7 millions du canton, je pense que c'est effectivement une proposition plus que faire. Je connais assez peu de clubs ou d'associations culturelles dans le Jura qui refuseraient 18 millions d'aides. Maintenant, pour rebondir sur l'ASA, monsieur...
Non, mais
Attendez, je vais terminer. Pour rebondir sur l'ASA, c'est faisable. Ça se fait à Fribourg. Fribourg-Gotteron... Non, c'est un excellent exemple. Pourquoi
on va laisser Romain Christ finir son
développement. C'est un excellent exemple? Parce que la ville a dit, nous, on va mettre 8 millions. 7 millions de droits de superficie, le canton met 15 millions, sur un total de 80 ou 85 millions, peu importe, le solde c'est du privé. Et la différence, parce qu'avant quand vous dites, oui mais il y a 2200 personnes qui se retrouvent chaque week-end ou tous les 5 jours, vous exagérez un tout petit peu, on a 1600, 1700, on espère 2200 personnes et on fait une patinoire à 4700 places. La différence, c'est qu'à Fribourg, ils vont monter à 8500 places, mais ils ont un carnet de réservation, d'abonnement qui est plein. Donc il faut m'expliquer quand même la logique économique de faire une patinoire à 4800 places pour espérer en mettre 2200 de moyenne.
Stéphane Babé, on vous donne la parole cette fois-ci.
Il y a plusieurs éléments. Vous parlez des 7 millions du canton. Mais ça, c'est dans la perspective où le Parlement approuverait une proposition du gouvernement dans le cadre de la réalisation de Voutressa. Mais le Parlement, il est quand même assez, il me semble, malin pour ne pas aller comme ça mettre 7 millions dans une structure tout à fait hasardeuse qui serait Voutressa, dont on ne connaît absolument pas le cadre, dont on ne connaît absolument pas le plafond. Ça, c'est un premier point. Par rapport à la création de la deuxième patinoire, de la nouvelle patinoire, de la nouvelle structure, ce qu'il faut savoir, c'est que partout où on a une nouvelle patinoire en Suisse, on a généralement une augmentation du public de 40%. Aujourd'hui, à Porrentruy, nous sommes à 1700-1800 habitants. Lorsqu'on dit que demain, il y aura 2300-2400 spectateurs, nous sommes même en deçà des perspectives les plus normales que l'on puisse attendre de cette réalisation. Et ça participe complètement quand même à ce phénomène social que j'évoquais tout à l'heure et qui est complètement important, non seulement pour notre région, mais pour le district. Vous oubliez aussi une chose, d'ailleurs on est en direct à la radio, mais vous avez plusieurs milliers de personnes qui écoutent la radio lors des matchs et qui se passionnent pour le hockey, qui se passionnent pour notre club. Et si on ne lui donne pas la possibilité d'avoir enfin les infrastructures pour évoluer dans sa ligue, je ne sais pas où c'est qu'on ira, M. Christ.
Mais alors, moi, ça m'intéresse quand même que vous me répondiez pourquoi on fait 4800 places pour 2300 comme vous l'espérez.
Moi, ça, Gérard Meyer, alors votre
réponse. C'est intéressant.
Mais je crois qu'on a fait un projet qui a été défini par rapport à un objectif de départ. On ne va pas remettre en cause ces objectifs de départ pour évoluer en Ligue Nationale B. Il y a la possibilité de faire, il y a les espaces qui sont là. Donc aujourd'hui, remettre ça en cause, c'est remettre en cause l'ensemble du projet. Donc il y a aussi ce besoin, pour quand il y a des matchs importants, où justement on puisse utiliser l'ensemble de ces infrastructures. Et on l'a dit, il y a des augmentations, on l'a vu partout où il y a eu des rénovations de patinoires, des nouvelles patinoires, il y a eu des augmentations de 30 voire 40% du public. Parce qu'il y a aussi un intérêt, une attractivité. Maintenant, juste pour revenir sur vos chiffres. Avec la création de vos sociétés anonymes, l'exemple de Fribourg, c'est le plus mauvais exemple. J'ai aussi pris des renseignements, ça tourne en rond. Donc on va, si on continue, cette option-là, donc on mettra notre projet à terre. Et je crois qu'il faut être responsable. On a tranché il y a 23 ans, les communes ont été d'accord de reprendre cette infrastructure parce qu'ils ont considéré qu'elle avait un intérêt pour cette région. On ne va pas remettre ça en cause aujourd'hui. Ça n'a jamais été remis en cause dans le cadre de ce processus. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut sortir du chapeau une nouvelle idée qui va mettre à terre pour justement mettre à terre ce projet.
Rapidement, Romain Christ, avant d'avancer.
Mais on met rien du tout à terre. Le projet continue exactement. Jusqu'à preuve du contraire, on a un projet à 20 millions pour une surface de glace que je trouve toujours démesurée parce qu'on ne m'a encore pas expliqué le pourquoi des 4800 places, hein, malgré le nombre d'explications. Et à un moment donné, oui, je pense que le HCA peut continuer à patiner en Ligue B avec 3500 places, avec une rénovation tout à fait correcte, qui sera supportable pour les communes et qui délaissera une capacité de financement pour des halles de gym, par exemple. Quand j'entends les mêmes personnes dire « Non, non, mais il faut diminuer le montant de 12 millions par rapport aux halles de gym », une halle de gym et typiquement aussi les piscines, malgré ce que vous pensez, sont beaucoup plus fréquentées qu'une patinoire.
Gérard Meyer, on va avancer dans le débat. Ce sont les communes les plus éloignées de la patinoire qui subiront l'augmentation la plus importante. Ça passe de 10 à 27 francs par année par habitant. Vous trouvez ça logique ?
Écoutez, je crois que ce processus a été défini dès le départ. Ça a été défini dans le cadre de l'Assemblée des délégués du SIDP, où on allait se répartir les charges de fonctionnement selon le principe des charges commune-centre. Hein, 60% pour Porrentruy, 25% les communes de la Couronne, 15% les autres. Par contre, la charge de la dette, elle allait se répartir par habitant, après un préciput de Porrentruy. C'est surtout une des raisons qui a fait, puisque la dette sera plus importante, que les communes un peu plus éloignées paieront aussi un peu plus. Mais il faut quand même aussi ne pas oublier que Porrentruy payera quand même toujours beaucoup plus que tout l'ensemble des autres communes.
Benoît Bléhart, concrètement, avec l'état actuel des finances des communes à Joulotte, est-ce qu'on peut encore investir ?
Je crois qu'il faut distinguer deux éléments principaux. Il y a l'investissement plaisir, entre guillemets, et l'investissement obligatoire. On sait que les communes croulent sous des obligations légales de refaire des conduites, des canalisations,
etc. Donc plus de plaisir en nageoire ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais juste terminer là-dessus. On a une partie d'investissement obligatoire. On parle de rénovation de collèges, de halles de gym, etc. On l'entendait tout à l'heure que c'est des obligations fédérales. Alors oui, effectivement, c'est une obligation. Personne ne se réjouit d'investir des sommes faramineuses pour ces investissements obligatoires. Mais c'est un fait. C'est comme ça. On doit y passer. On n'a pas le choix. Par contre, dans les éléments qui sont plaisir, en l'occurrence, parce que j'insiste sur cette patinoire, c'est un élément de sport, de plaisir, on n'est pas dans quelque chose d'obligatoire, et bien c'est des éléments justement typiquement sur lesquels il faut être attentif, parce qu'on a ce potentiel, on a cette marge de manœuvre maintenant, de pouvoir dire oui, attention, c'est là qu'il faut être raisonnable, on peut faire quelque chose de raisonnable, et de ne pas simplement partir dans des éléments qui sont impayables à terme pour le citoyen.
Prochain thème, ce qui pourrait réjouir les communes, c'est un impact touristique et économique positif. Le SIDP l'évoque notamment au travers du deuxième champ de glace qui est appelé à devenir un centre de formation et d'entraînement national pour les équipes de Suisse de jeunes. Gérard Meyer, c'est un bel argument, mais on attend toujours des chiffres, des contrats.
Mais je crois qu'aujourd'hui, on l'a déjà dit, nous avons un contrat qui est en préparation avec la Ligue Suisse de hockey. Un contrat avec la Confédération pour justement obtenir le crédit qu'ils nous accorderaient pour cette deuxième surface de glace. Mais tout ça ne peut se conclure, ne se concrétiser qu'une fois qu'on aura la décision de la population. Et je crois qu'il faut être clair aussi, il y a des attentes et il y a des demandes qui sont là. On l'a déjà évoqué tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il y a vraiment des réelles demandes. Puis on parle de retombées économiques et touristiques. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on élude aussi trop facilement. Le HCA, c'est quand même aussi une entreprise. Elle engage des personnes, elle engage des entraîneurs, des soigneurs, des joueurs, des gens qui résident ici, qui consomment ici, mais qui payent aussi des impôts ici. On sait qu'aujourd'hui, hors de grandeur, 250 à 300 000 francs d'impôts qui sont payés ici. On attend aussi, avec, pour les retombées touristiques, ben, avec ce centre de formation nationale où des jeunes viendront pour des séries, des camps d'entraînement. On a déjà fait certaines estimations où ces 450 nuitées, ces 2500 repas, on peut voir aussi dans le cadre des commerces, dans le cadre de l'hôtellerie, aussi attendre aussi des retombées peut-être de 2 à 300 000 francs en chiffre d'affaires. Et ça, c'est sans compter aussi les parents qui les accompagnent, c'est aussi sans compter l'intérêt et l'attractivité d'une région, de la montrer aux autres, qui donne aussi envie après de revenir. J'entends, c'est aussi un cercle. Ça, il faut y penser. Et puis ce qu'on oublie aussi, ça j'insiste, c'est le développement du tourisme interne. On a toujours essayé de faire du tourisme pour accueillir des gens qui viennent de l'extérieur. Mais on ne fait jamais rien pour les gens qui sont sur place. Et ça, cette infrastructure, on l'a dit, il y a le public, on ne peut même pas aller en famille à un moment, un dimanche, un week-end, un soir, pour pouvoir pratiquer quelque chose. Donc ça aussi, il faut le mettre en avant. Garder les gens chez nous. Ils ont des activités, mais quand ils sont chez nous, ils consomment aussi ici. Stéphane, et ça, il y a aussi cette volonté.
Stéphane Babé, ce million de la Confédération, les promesses de dons, etc. Vous avez des documents signés, quelque chose de concret ?
Oui, il y a évidemment des documents qui sont signés, non seulement de la part de la Confédération, mais également de la part de tous les partenaires et des entreprises qui ont pris des engagements, qui sont donc signés. Et lorsqu'on consulte d'ailleurs le rapport d'Aflon, moi je suis un peu chagriné quand même parce que le rapport d'Aflon met en doute l'existence même de ces 2,9 millions. Mais c'est quand même assez grave parce que ces entreprises ont signé des engagements, donc. Et là, le rapport d'Aflon met en doute l'existence même de ces rapports, alors qu'on a tous vu quand même, pour 1,5 million d'engagements de deux établissements bancaires, ils ont passablement communiqué là-dessus, ça fait partie notamment de ces montants. Donc, ces montants sont effectivement présents. J'aimerais aussi souligner, du point de vue de l'économie, les loges. C'est important, les loges, pour les acteurs économiques de notre région. Parce que dans les loges, vous y faites des rencontres informelles, vous y faites des rencontres dans un cadre autre que celui professionnel. Et là, vous pouvez engager des choses qui n'ont strictement rien à voir avec le sport, mais qui permettent à notre région aussi de se faire connaître du point de vue économique au travers des rencontres, lors notamment des matchs de hockey. C'est un élément qui est particulièrement important pour nous, et je pense que c'est un élément qu'il s'agit également de mettre en avant.
Benoît Blayart, la Confédération promet donc 1 million pour ce centre de formation. On peut s'en passer, on a joie.
Non, alors effectivement, un million, c'est un élément qui est important, mais je crois qu'il faut mettre ce million de subventions en parallèle au coût, effectivement, de cette deuxième surface de glace. Et il y a le coût, effectivement, de l'investissement, il y a le coût des charges de fonctionnement. On a tendance aujourd'hui à dire qu'une ou deux surfaces de glace, finalement, à un chouille après, ça sera à peu près les mêmes charges. Là, c'est des éléments qui nous interpellent aussi. Donc, quand on parle aussi tout à l'heure d'entreprise au niveau du club du HCA, effectivement, c'est une entreprise, il y aura des rayonnements. On n'est pas en train de dire que la patinoire n'amènera rien. Elle amène déjà quelque chose aujourd'hui. On ne part pas de rien. Et cet élément, il est effectivement important. Quand on parle de 4 à 500 nuitées par année, nous, on a aussi eu le chiffre d'environ 1 000, 1 200 repas qui sont servis. Si on parle de 1 000, 1 200 personnes par année, sur 30 ans, c'est 30 000 personnes. Une braderie à Porrentruy, c'est 30 000 personnes aussi. Il faut pouvoir toujours relativiser aussi ces chiffres en disant, mais finalement, quel est l'investissement public au regard des retombées économiques? Donc on n'est pas en train de dire que la patinoire n'amène rien, elle amène quelque chose, c'est déjà le cas maintenant, c'est sûr, mais l'investissement supplémentaire, voilà, est-ce qu'il doit être pris en charge par le citoyen? C'est ça la question.
Romain Christ.
Alors moi dans ce projet, j'aurais beaucoup, beaucoup aimé avoir effectivement une analyse un peu plus fouillée des retombées économiques, des retombées touristiques. Et bah, typiquement, le dernier débat, quand on a demandé les résultats de l'étude de marché, ils n'étaient pas accessibles apparemment.
On vous l'a dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure.
Je crois que maintenant, on a pu les avoir, c'est 500 nuitées. Alors bien sûr, ce n'est pas rien, 500 nuitées. Monsieur Babé a quand même aussi ajouté que les jeunes dormiraient dans des abris, donc ça me laisse songeur par rapport au tourisme. Et ensuite, il faut juste mettre ça en lien, en rapport avec les 31 000 nuitées qu'on a en Ajoie. Donc est-ce que l'investissement de X dizaines de millions, peu importe, va, économiquement parlant, avoir effectivement un intérêt sur l'Ajoie? J'en doute fortement. Par contre, si on avait eu, ou si on aurait un projet complet avec un camping, avec une patinoire, avec une piscine, un tennis, c'est-à-dire une zone de loisirs qui soit attrayante, là, je pense qu'économiquement et touristiquement, on aurait effectivement de l'attrait, et beaucoup plus qu'avec deux patinoires.
Stéphane Bobé.
Et là, vous voulez le financer avec votre SA? Enfin, je pose la question parce que ça me pose un peu des questions.
Pourquoi pas, s'il vous plaît?
Oui, moi j'aimerais quand même juste souligner l'importance de la deuxième surface de glace par rapport à son financement. Ce qui est important, c'est que vous avez les 1 250 000 de la Loro. Ils sont conditionnés à la création des deux surfaces de glace. Vous avez le million de la Confédération, évidemment conditionné à la création des deux surfaces de glace. Vous avez 2 900 000 des milieux économiques qui sont en partie, en tout cas, conditionnés à la création de cette deuxième surface de glace. Donc là, entre la première et la deuxième, on a près de 6 millions, voire même 6,5 millions lorsque l'on tient compte de l'ensemble des subventions cantonales qui vont tomber grâce à la création de cette deuxième surface de glace. Elle est essentielle, elle est importante. Ce sera la carte de visite de la région. C'est là-dessus qu'il faut miser. C'est grâce à cette deuxième surface de glace qu'on va enfin orienter le projet dans un système et dans un projet sociétal qui est absolument essentiel pour notre région. Vous savez, moi, en tant qu'ajoulot, J'en ai marre de voir l'hémorragie qu'on vit depuis deux générations. Tout fout le camp. Là, j'ai le bulletin de vote que vous allez recevoir la semaine prochaine. Pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà vu. Sur ce bulletin de vote, il y a deux bulletins. Il y a deux questions qui concernent évidemment le projet patinoire. Mais on dépasse largement le cadre de la patinoire, là. Là, on dépasse largement le cadre de la patinoire parce que ça va orienter ce qu'on va définir pour notre région. Ça vient de nous. Ça ne vient pas de Berne. Ça ne vient pas de Léman. C'est nous qui prenons.
On va y arriver à ce développement de la région.
C'est nous qui prenons cette responsabilité.
Stéphane Babé, on va y arriver à ce développement de la région. Peut-être une réaction avec vous, Romain Christ. On évoque cette recherche de fonds qui a permis de récolter grosso modo 3 millions de fonds privés. Ça montre quand même que les milieux économiques régionaux, ils sont derrière ce projet. Il y a une attente.
Mais j'en suis ravi et je félicite les gens qui ont cherché cet argent. Par contre, de nouveau, moi, j'apprécierais fortement que dans la présentation du dossier, on ait effectivement le montant
qui sera alloué par et par le privé, par la Loro, enfin tous les exemples que vous avez donnés, à une surface de glace. Et en cas de deux surfaces de glace, qu'est-ce qui ira à la deuxième? Là, qu'est-ce qu'on fait? De nouveau, on manœuvre, on met un montant qui se trouve entre les deux projets et les gens ne savent...
S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Les gens ne savent clairement pas.
C'est malhonnête, monsieur.
Mais alors, dites-moi, qu'est-ce qui ira à une surface, qu'est-ce qui ira à deux surfaces?
Gérard Meyer, vous arrivez à expliquer?
Donnez-moi.
Je crois qu'il faut être clair dans ce processus. Chaque fois que la recherche de fonds s'est faite par le comité de soutien, c'est fait en présentant un projet avec deux surfaces de glace. Donc, on connaît aussi, et on a pris l'exemple de la Loro qui a été citée, c'est stipulé dans un courrier, l'octroi de la subvention, du soutien financier, est conditionné à ce que le projet se réalise dans son ensemble. Nous avons certains investisseurs privés, de même, ils sont aussi pour soutenir un projet qui doit se réaliser dans son ensemble. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, nous ne pouvons pas non plus trahir, dans le cadre de la mise du plan de financement, trahir aussi, de dire, ben finalement, on répartit une partie, trahir finalement ce qui a été négocié avec l'ensemble des personnes et des soutiens, des sponsors. Je crois qu'il faut être clair aussi. Donc, aujourd'hui, ça a été préparé sur un projet global. Donc, nous devrons, si d'aventure, malheureusement, il ne devait y avoir qu'un seul oui au 1er juillet, ben nous devrons aller rediscuter et après exactement faire le détail du financement aussi des moyens externes que nous avons pour cette infrastructure.
Benoît Bléhart.
Mais finalement, on s'interroge sur le fait de dire mais pourquoi demander l'avis au peuple finalement si c'est si indispensable, on est pieds et poings liés avec deux surfaces de glace, mais pourquoi demander l'avis aux gens? Il faut commencer de construire et puis c'est parti, on y va demain. Donc cette interrogation elle est légitime quand même de se dire mais qu'est-ce qu'on devra payer? Est-ce que c'est à la hauteur de nos moyens, etc. On sent bien que ce dossier-là, il va mettre quelques communes sur le carreau, on aura effectivement quelques dommages collatéraux, on parle de 11 communes sur 21, c'est pas rien, hein, j'entends, c'est quand même quelque chose qui est important, c'est plus de la moitié des communes qui seront en difficulté financière, mais
Ce n'est pas grave, finalement.
Ce côté-là, c'est quelque chose quand même qui est important de dire bah, il y aura 11 dommages collatéraux, finalement, sur le passage. Voilà, c'est un choix, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, ces communes s'en remettront aussi certainement. Si c'est deux fois oui, bah, ma foi, ce qu'on paye à gauche, on ne le payera pas à droite. On n'est pas en train de dire que ce projet ne se fait pas et que notre opposition, elle dit de ne rien faire. On insiste en disant, bah, finalement, le canton le fait, en disant, on donne une fois un seul montant, puis après, finalement, débrouillez-vous, responsabilisez-vous aussi par rapport aux charges de fonctionnement, à ce que vous souhaitez, etc. Mais si c'est si indispensable d'avoir ces deux champs de glace, la proposition, le 2 juillet, elle peut partir. Faites les deux champs de glace, mais le don, il est unique, ferme, et 11 millions d'argent public des citoyens pour ce projet-là, c'est quand même pas négligeable. Donc, voilà.
Mais si on suit ce raisonnement-là, finalement, que tout ce qu'on fera, finalement, ben, on crée une société, et puis, ma foi, responsabilisez-vous. C'est ça qu'on veut. On veut plus de solidarité dans cette région, lorsqu'on a des projets, quand même, qui sont d'intérêt régional, d'intérêt cantonal. Je crois qu'il faut, à un moment donné, avoir aussi le sens des responsabilités vis-à-vis aussi de ceux qui veulent nous soutenir aussi en tant que bailleurs de fonds. Donc, il faut aussi donner des garanties. Maintenant, on revient toujours sur la difficulté de ces 11 communes. Mais c'est pas depuis l'année passée que ces difficultés existent. Ça fait une dizaine, voire des dizaines d'années que ça existe. Mais si on avait suivi et si on n'avait pas investi dans nos communes pour entretenir, améliorer notre situation, les gens seraient partis, nous n'aurions pas cette situation de possibilités de développement. C'est dans ce cadre-là aussi qu'il faut inscrire l'investissement que nous faisons aussi, la part des communes pour cet investissement dans ce projet.
Romain Chris, dernier rebond avant passer à la suite.
Alors, quand on parle de solidarité, oui, mais je suis désolé, mais là, on ne parle pas de solidarité. On parle de foncer dans un projet pour un, deux ou trois clubs, mais des utilisateurs de glace. Par contre, il n'y a plus de solidarité quand on parle de skatepark. Quand on parle de camping, la solidarité, elle n'existe plus non plus. Donc, à un moment donné, ce qu'il faut juste se rendre compte, c'est que le canton du Jura a 12 000 adolescents. Ici, on parle de 150. Et je suis, mais pour... qu'ils puissent faire du hockey.
Non, monsieur Chris, vous faites un raccourci.
Et à un moment donné, je pense que quand vous parlez de solidarité, c'est le terme est mal choisi. Parce que ce n'est pas être solidaire que de foncer dans un projet et de dire, nous, on a notre infrastructure, quelque part après, bah, le skatepark, bah, vous vous débrouillez, vous allez en ville ou je ne sais où. Non, ce n'est pas être solidaire.
Non, il y a les réflexions sont aussi en cours pour le camping, pour le skatepark, pour aussi trouver des solutions. Ça va se faire aussi dans le cadre du plan directeur régional que les communes mènent ensemble. Et je crois qu'il faut être clair aussi, il y a les sports de glace, mais ce qu'on oublie, c'est aussi l'ensemble de la jeunesse, des écoles, du public aussi, qu'on a envie aussi de leur donner aussi une infrastructure pour qu'ils puissent aussi vivre dans cette région.
On leur a compris, messieurs, on arrive gentiment aux questions du public. Préparez-vous d'ailleurs, public. Juste avant cela, un rapide tour de table sur un on dit assez fréquent en Ajoie. Certains estiment que si ce projet devait voir le jour dans la vallée, il ferait l'unanimité. Vous partagez cet avis, Romain Christ?
Moi, je suis originaire de la vallée, donc ça se voit peut-être. Ouais.
On va laisser donc, Romain Christ s'exprimer, s'il vous plaît. On va laisser Romain Christ s'exprimer, s'il vous plaît.
J'ai encore quelques connaissances là-bas et je peux vous dire qu'ils, oui, ils ont un sourire en coin. Alors évidemment, ils ont fait une patinoire à Delémont, que j'ai utilisée aussi. Ils ont eu pas mal de peine à la couvrir. Donc je me réjouirais, mais dans le mauvais sens du terme, j'aimerais bien voir qu'une patinoire à 30 millions verrait le jour dans la vallée. Et je trouve que c'est de la part des gens qui lancent ce côté régionaliste, je trouve que c'est petit de faire peur aux gens en disant « Ah ouais, vous verrez, tout va repartir dans la vallée ». Et ça, je trouve que c'est vraiment bas et on peut imaginer de qui ça vient.
Gérard Meyer, vous auriez rencontré moins d'opposition dans la vallée avec un projet à 30 millions pour une patinoire de champ de glace.
Je crois que ce projet, il est en Ajoie. Je ne veux pas spéculer ce qui se serait passé dans la vallée de Delémont. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous occuper de ce qui se passe chez nous. Et chez nous, la patinoire, elle est en Ajoie et c'est chez nous qu'elle doit rester et nous devons nous donner les moyens de réussir ce projet.
Benoît Bléiat. Benoît Bléiat, les Ajoulons ne sont-ils pas trop frileux finalement, à bien vous comprendre?
Le fait de mettre la patinoire à Delémont, cette menace qu'on entend, effectivement, ça n'a jamais été quelque chose qui est évoqué. Cette patinoire, elle est en Ajoie, elle restera en Ajoie, qui est un champ de glace ou deux champs de glace ou cinq champs de glace. Cette patinoire, elle sera rénovée à son endroit. Donc, ces arguments de dire « Ah, mais si on ne la fait pas, elle va partir à Delémont », je crois qu'il faut aussi pas oublier qu'il y a quand même 7 millions d'argent cantonal, hein, de l'ensemble des districts, qui va participer à cette infrastructure. Donc, il faut aussi être un petit peu correct vis-à-vis de l'ensemble des citoyens du canton qui vont financer aussi, par le biais de leurs impôts, une partie de cette infrastructure.
Je ne suis pas sûr qu'en venant avec votre histoire de SA et en demandant 7 millions au canton, vous assurez véritablement la solidarité au niveau cantonal. Et là, de nouveau, c'est une aventure un peu complètement hasardeuse qui n'aura finalement de finalité qu'une reprise du passif dans 5 ans.
Place donc à présent aux questions du public, vous qui êtes présents ce soir à Courtedoux. Signalez-vous, on va vous apporter un micro. Avant la première question, quelques règles. On attend de votre part une question. Pas un avis, on voit que c'est un débat très émotionnel, on attend une question et surtout le respect de nos invités. On vous demande de vous présenter et de formuler votre question à l'une des personnes présentes sur scène. Ici devant.
Merci, Fiorenzo Monti de Fontenay. Les partisans du deux fois oui, vous prétendez que cette réalisation sera le fer de lance du développement de l'Ajoie. Alors comment expliquez-vous que du côté d'une autre région périphérique, le nord du Tessin, la Léventine, on a une grande patinoire, on a aussi un grand club qui est dans l'élite, c'est le club HC Anbri-Priota, et ce club il est dans l'élite depuis très longtemps, et cette région n'a pas eu de développement. Elle est en déclin depuis longtemps, en fait elle est en déclin depuis l'ouverture de l'autoroute A2. Et la patinoire et le club n'ont eu aucune incidence sur le développement régional de cette...
Gérard Meyer, votre réponse?
Je crois qu'il faut inscrire aussi cette construction, cette réalisation dans le cadre du développement économique dans un environnement global. Il est bien clair que ce n'est pas rien qu'avec la patinoire qu'on va faire exploser l'économie, mais elle fait partie, c'est un des maillons, mais c'est aussi un des maillons de montrer aussi la force d'une région, la force d'une population qui a envie de continuer aussi de se maintenir et aussi de pouvoir faire venir et donner envie. Aujourd'hui, c'est ça l'enjeu aussi qu'il y a dans ce projet. C'est aussi l'envie d'une région de se développer et de garder aussi sa jeunesse et aussi de faire venir aussi chez nous les gens.
Une prochaine question de la part du public. Le débat n'a pas suscité de questions, mais vous me surprenez.
Alors on vous laisse encore une dernière possibilité. Question dans le public.
Ici devant, s'il vous plaît. au troisième rang.
Alors Sanchez Salvador, Fontenay. Le projet de la piscine qui a été voté récemment est une formidable chose pour la région, n'est-ce pas, Monsieur Christ? 5,67 millions de francs investis pour la région. C'est vraiment génial pour tout le loisir, pour les gens, pour la pratique de ce sport, pour quelques passionnés dont nous-mêmes nous faisons partie. Je ne sais pas si cette piscine deviendra un centre de formation nationale, mais je le souhaite afin qu'il puisse y avoir des rentrées supplémentaires pour la ville et le district ainsi que le canton. Pour...
On attend votre question, monsieur.
Oui, elle arrive. Pour la patinoire à deux champs de glace, on parle de 13 millions résiduels pour les communes du district. Ma question, quels sont les frais de fonctionnement annuels et pourquoi vous ne vous êtes pas opposé à ce projet?
Alors, je vais vous répondre bien facilement. Déjà, je ne sais pas comment vous pouvez dire que je ne me suis pas opposé à ce projet, puisque vous n'avez pas vu mon bulletin de vote. Donc, non. Et c'est un très bon exemple. Je n'étais effectivement, j'étais pas très favorable à ce projet. Pourquoi? Parce qu'on refait la piscine, on parle de refaire des patinoires. Il y a zéro synergie, zéro. Donc oui, de nouveau, on n'a pas une vision globale des choses. Et oui, le projet de la piscine me plaît plus que moyennement, je peux vous le dire. Donc, à un moment donné, moi je pense que c'est vraiment dommage que les gens ne soient pas assis à une table. On l'a fait une fois en 2013 avec M. Meyer, je lui en ai parlé en 2013, je lui ai dit voilà, je pense qu'on peut avoir des synergies entre ces deux objets, voire même ces trois, parce que le camping a sa place là, et vous faites bien de le relever, oui, ça ne me plaît que moyennement.
Une prochaine question.
On va donner la possibilité à quelqu'un d'autre de s'exprimer, peut-être une autre question dans le public.
Alors, on va peut-être rebondir par rapport aux synergies, Gérard Meyer, avec la piscine, il n'y a pas eu de synergie?
Alors, ceci a été étudié au départ du projet, mais on a dû se rendre compte aussi, avec l'évolution aussi du dossier, que c'était extrêmement compliqué d'avoir des synergies, notamment pour la réalisation, l'exemple des vestiaires ou d'autres choses. L'objectif est quand même, au niveau synergie, c'est d'utiliser une partie des énergies qui seront produites à la patinoire. Tout ça devrait être consolidé dans la finalisation du projet. Mais il faut bien se rendre compte aussi que dans ces espaces, ce sont que des choses complètement différentes, avec un propriétaire différent. Par contre, tout ce qui est la zone d'accueil, celle-là, elle est prévue aussi à terme de pouvoir faire un seul endroit, justement, dans le cadre du projet patinoire, l'accueil pour l'ensemble du site.
Une réaction avant la prochaine question, Benoît Bléhard.
Effectivement, merci. Une réaction par rapport au vestiaire de la piscine. Il y a une distinction à faire entre la piscine qui est du ressort de Port-Entruy, les communes périphériques, par la répartition des charges à la commune-centre, payent la facture, elles n'ont pas leur mot à dire en l'occurrence, donc elles accusent réception simplement de la facture et elles payent. Pour notre commune, c'est environ 11 000 francs par année pour la piscine. Mais aujourd'hui, effectivement, quand on parle d'un dossier qui est ficelé, hein, tout est clair, tout est ficelé, les coûts sont maîtrisés, mais que coûtent les vestiaires de la piscine? Ils ne sont pas dans le crédit de la piscine, puis par contre, ils ne sont pas dans le crédit de la patinoire. Que coûte le déplacement du skatepark? On ne sait pas. Que coûte le déplacement du camping? On ne sait pas. Que coûte un arrêt CFF? On ne sait pas. Donc ces éléments-là, ils vont être quand même mis finalement à charge des communes, et ça, c'est un élément qui est inquiétant.
Prochaine question du public.
Non, mais j'aimerais juste répondre à Benoît. Donc les 11 000 francs, enfin Benoît Bleuillard, excuse-moi Benoît, les 11 000 francs que tu évoques ne concernent pas seulement la piscine. Il y a l'espace jeune, il y a différents éléments, il y a la bibliothèque publicitaire municipale de Port-Entruy qui est également inclus dans la facture que l'on reçoit au niveau de l'État. Donc ça ne concerne pas seulement uniquement la piscine. S'agissant du camping. On est, d'ailleurs, tous ceux qui sont à la tête d'une mairie savent que nous sommes en pleine réflexion du PDR, du plan directeur régional, et au travers de ce plan directeur régional se pose la question du tourisme. Et à l'intérieur de cette sous-couche qui s'appelle tourisme, on va y inclure, bien évidemment, le camping. Alors maintenant, il s'agit de se mettre tous à table, de porter une réflexion et de se poser les bonnes questions quant au bon emplacement de ce tourisme. S'agissant du skatepark, Il faut savoir que Porrentruy met à disposition un bâtiment qui est couvert, qui convient très bien aux skateurs. Alors pour l'instant, c'est une formule qui est intermédiaire, mais on est en train également de réfléchir à un endroit de skatepark qui lui serait couvert, parce que les jeunes sont également en attente d'un instrument ou d'un bâtiment qui est en tout cas protégé de la pluie.
On passe à la prochaine question du public, monsieur.
Oui, Jean-Louis Gigon à Bure. Sachant que le HCA Joie, durant ses 13 dernières saisons, a été suivi par plus de 460 000 spectateurs, ce qui génère environ 22 millions de chiffres d'affaires et de rentrées au club. Et tout cet argent, il est reparti dans l'économie. Pensez-vous, messieurs, avec votre idée de limiter la capacité d'une patinoire à 2000 places, on pourrait se passer de certains millions?
Romain Christ.
Ben, je ne sais pas, c'est ce monsieur qui parle de limiter à 2000 places. On parle de, nous, de 3500... Non, je n'ai pas parlé de 2000 places, j'ai parlé de 3500 places. J'ai juste demandé, et je n'ai toujours pas la réponse, pourquoi on fait une patinoire à 4800 places alors qu'on espère en avoir 2200. Donc...
On va laisser monsieur Christ répondre à votre question, monsieur Gigon.
Donc, à un moment donné, le HCA Joie, moi, j'en suis le premier content si, effectivement, il y a du monde qui vient au match. Mais pour l'instant, c'est 1600, 1700 personnes. Et si ça fonctionne si bien que ça, j'en suis le premier heureux. Mais grâce à la SA, eh bien, les rentrées qui seront générées, dont vous estimez à je ne sais pas combien de millions, eh bien, finalement, le HCA et les utilisateurs pourront garder cet argent et ils n'ont qu'à juste à supporter les charges. C'est ce qui se faisait, monsieur, de 73 jusqu'en 95 et que ça fonctionnait parfaitement bien.
Y a-t-il une autre question? On va laisser quand même le public poser ses questions. Il y a encore une question sur la gauche de la salle.
Maire de Boncourt.
N'hésitez pas à vous signaler si vous avez encore des questions à suivre. À vous la parole.
Oui, bonjour, Lionel Maître, maire de Boncourt. Moi, j'ai une question pour les opposants. Ils parlent ils accusent même le CDP de ne pas être transparent, alors qu'on trouve tous les chiffres sur le site Internet. Il suffit de prendre un peu de temps, puis d'y concentrer, puis un peu d'y réfléchir. Mais finalement, vous ne parlez jamais de qui vous finance. On ne sait pas qui est derrière votre mouvement, qui a financé le rapport d'Aflon. Donc, je pense que c'est aussi à votre tour d'être un petit peu transparent vis-à-vis de ça.
Qui souhaite répondre à cette question de Lionel Maître, Romain Christ?
Moi, je réponds volontiers. Alors, pour les montants qui sont sur le site, oui, c'est ceux que j'ai là. Vous savez, des montants, ils se laissent simplement écrire. Et les montants, certains montants qui sont là...
Non, une fois de plus.
On va laisser...
Non, mais on ne peut quand même pas se laisser attaquer de cette manière. C'est quand même incroyable. Vous parlez là des maires, monsieur Christ. Et à votre gauche, il y a un maire également. Non, je ne peux quand même tout simplement pas vous laisser parler comme ça.
On laisse monsieur Christ finir sa réponse.
C'est tromper le monde.
Non, mais là, on est en train de parler de malhonnêteté, monsieur le Christ. Ça, je peux quand même pas l'admettre venant de votre part.
676 000 francs, ils ne sont pas corrects. Et c'est quand même la base de toute votre argumentation. Ensuite, par rapport au rapport d'Aflon, effectivement, il a été financé entre les différents membres du MCCR. Maintenant, ce rapport d'Aflon, c'est un rapport qui aurait dû être fait, effectivement, par le SIDP pour structurer son dossier et pour qu'il soit
dans l'autre sens, monsieur Christ.
S'il vous plaît.
Mais alors. Je vous invite à prendre contact avec M. Daflon. Je sais que vous avez essayé de l'utiliser, mais je peux vous dire que M. Daflon, il est extrêmement plus même que sceptique et il est persuadé que ce projet, comme je le dis avant, ne tiendra pas la route plus de 5 ans.
Alors Stéphane Babé.
Oui, alors moi je suis très surpris de nouveau que vous repreniez le rapport d'Aflon pour la simple et bonne raison qu'on est dans la nuance et dans l'interprétation. Et ça, vous le savez parfaitement. Et M. Daflon, pour être totalement complet et concis dans son rapport, aurait peut-être dû aussi prendre contact avec le SIDP. On aurait certainement pu lui donner des explications qu'il manque a priori dans la synthèse de son rapport.
Y a-t-il encore une question au sein du public? Une question avant de mettre un terme à ce débat, si ce n'est pas le cas, eh bien, cher public, chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de ce débat. Merci d'y avoir pris part. Merci également à nos quatre invités du soir, Romain Christ, Benoît Bleyart, Gérard Meyer et Stéphane Babé. Vous retrouverez bien sûr ce débat en intégralité sur notre site internet. Tous les sujets en lien avec cette votation populaire se trouvent aussi dans notre page spéciale sur RFJ. Merci à Sandra et Yves qui ont réalisé ce débat, ainsi qu'à toute l'équipe qui nous a aidé à le préparer. Et puis
puis merci à la commune de Courtedoux également pour la mise à disposition de cette salle.
Pour finir, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 1er juillet dès 12h30 pour découvrir en direct les résultats de chaque commune à Joulotte. Émission spéciale avec des réactions, des analyses. Belle soirée à vous et n'oubliez pas d'aller voter.
RFJ, spéciale votation.